Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, on va approfondir la page ouverte dans le journal d'Antoine Mercier avec un retour sur ce G7 qui va peut-être dans le sens de l'histoire et qui confirmerait peut-être l'ouverture d'un nouveau cycle, celui de la démondialisation. Pour en discuter, deux invités, Philippe Moreau-Defarge, spécialiste en relations internationales, auteur de La tentation du repli chez Odile Jacob, et l'économiste Jacques Sapir, auteur en 2011 de La démondialisation. Ils seront avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, tsarissime Ivo Vanov part une fois encore à la conquête du pouvoir avec une adaptation de Boris Godounov de Moussorgski pour l'Opéra de Paris. Entre espoirs suscités et promesses non tenues, il sculpte la figure charismatique d'un chef en prise avec la solitude du pouvoir. Enfant de Shakespeare, le metteur en scène belge est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bientôt à Avignon pour y présenter Les choses qui passent, premier volet d'une trilogie Louis Couperus, et à Chaillot pour y présenter ses tragédies romaines d'après Shakespeare. On peut voir en ce moment sa dernière création sur la scène de l'opéra Bastille, Boris Godounov de Moussorgski, d'après Pouchkine jusqu'au 12 juillet, interprété par le chanteur Ildar Abdrazakov. Bonjour Ivo Vanov.
Bonjour.
Bonjour. Premier pas à l'Opéra de Paris, après des premiers pas à la Comédie Française en 2016 avec Les damnés de Visconti. Après avoir mis en scène quasiment tout Shakespeare et notamment la guerre en huis clos dans Kings of War, la tragédie du pouvoir continue à vous fasciner ?
Oui, bien sûr, parce que c'est un thème crucial dans ce temps où on vit maintenant. Alors, je crois que c'est très nécessaire de réfléchir sur quel chef d'État qu'on veut dans notre pays, mais aussi dans le monde. Et il y a des défis pour des chefs d'État maintenant, je crois. Alors, c'est bon de réfléchir sur ça aussi dans les opéras, dans des pièces de théâtre, dans l'art.
Alors, on évoquait Shakespeare. Quel traitement particulier ont fait le russe Moussorgski de ce pouvoir, de cette question du pouvoir ?
Il nous montre un homme, Boris Godounov, parce que c'est le rôle principal, c'est le titre. Il nous montre lui, qui d'abord comme un réformateur. Il change, il veut changer le système héréditaire dans un système plutôt démocratique, on peut dire, avec un mot moderne. Parce qu'il veut que pas seulement l'élite politique, pas seulement l'élite religieuse, mais aussi le peuple, vraiment exprime le support pour lui. Alors, l'opéra commence comme un opéra de l'espoir, un réformateur qui veut changer des choses. Et il change aussi des choses. Et il parle de ça plus tard dans l'opéra, dans un aria très important, qu'il a fait beaucoup de choses très bonnes pour le pays. Il a investi dans le monde financier, mais aussi il a construit des universités, nouveaux logements pour son peuple. Mais, et ça c'est peut-être ce qui est très important, il oublie qu'il faut aussi communiquer ça. Après la première scène, on ne voit jamais entre son peuple. Seulement dans le Kremlin, dans son palais.
Il s'isole.
Oui, il s'isole. Et alors, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas le support du peuple encore.
Alors, il a vraiment existé, ce tsar, hein, du XVIe siècle. Enfin, en tout cas, il a accédé au pouvoir au XVIe siècle. Il a succédé à Féodor Ier, le fils d'Ivan le Terrible, un nom qui charrie quand même tellement de représentations qu'on comprend quels changements, quelles ruptures peuvent être espérées au moment où lui accède au pouvoir à la tête de toutes les Russies. Cet opéra, il a été composé et écrit par Moussorgski, représentant de l'école folkloriste russe. Le livret de Boris Godunov s'inspire d'une pièce de théâtre écrite par Alexandre Pouchkine dans les années 1820, autour de cette personnalité. Pouchkine qui dit s'être directement inspiré de Shakespeare dans sa peinture vaste et libre des caractères, c'est ce qu'il écrit dans la préface, sa composition des plans immédiates et limpides. Et c'est vrai que c'est une musique, un opéra très narratif, Ivo Vanov. Cette dimension littéraire, presque théâtrale, vous a tout de suite séduite.
Oui, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire la première. Il y a deux versions de cet opéra. Et on joue plutôt la deuxième version. Mais moi, je préfère vraiment la première version qui est très personnelle, mais aussi très politique et centrée sur ce personnage de Boris, mais aussi parce qu'il y a un autre personnage principal, c'est le peuple dans ce cas-là.
Le peuple qui fait cœur sur la scène de l'opéra. Hein.
Oui, bien sûr. Mais qui est totalement différent de la deuxième version. Dans la deuxième version, ça termine avec une révolution, pas ici. Ça termine avec une indifférence totale envers le pouvoir, envers les politiciens, envers les chefs d'État.
Et ce peuple est aussi un peu pour vous une métaphore de nos démocraties, de nos sociétés endormies.
Oui, et aussi des sociétés et des hommes et des femmes qui sont frustrés, qui expriment les frustrations entre eux, mais pas dans le domaine public. Et quand on fait ça, ça dure pas très longtemps, c'est toujours quelques semaines et ça se termine. Alors il n'y a pas vraiment, parce que ce peuple enragé, mais aussi dans une façon retenue. C'est ça que Moussorgski montre, et c'est aussi un peuple que je reconnais maintenant dans notre rue.
Alors vous dites que c'est Patrice Chéreau, Ivo Vanov, qui vous a enseigné à utiliser la musique, pas directement puisque vous ne l'avez pas connu, mais par son travail au cinéma comme sur scène. Il a monté aussi un certain nombre d'opéras. Sur l'importance du texte, écoutez ce qu'il en disait.
Au départ, il n'y avait pas le texte. Au départ, je voulais faire des images. Au départ, je faisais des gouaches dans l'atelier de mon père, où je regardais, je décidais les mises en place, et je faisais. Et après, je les amenais aux acteurs en disant, voilà, c'est ça qu'on va faire.
Et maintenant?
Plus du tout. Je n'ai pas le temps, j'ai compris un jour que où je m'occupais des acteurs et du texte, ce qui a été récent, le texte. Hein. Je me suis intéressé au texte. Oui, c'était récent.
Marivaux.
Oui, ça a commencé avec Marivaux. Mais le choc le plus... Oui, là où j'ai compris l'importance, non seulement l'importance du texte, mais l'importance de la réflexion qu'on a sur le texte, c'est avec Coltès. À cause des monologues, à cause que ce sont des pièces écrites en français aussi. À un moment donné, le théâtre a à voir avec la langue maternelle. Quand on ne fait que des pièces en traduction, on perd quelque chose de théâtre. Et on perd la relation de l'acteur avec sa langue maternelle.
C'est intéressant cette question de la langue. Alors là, les chanteurs chantent dans leur langue maternelle, en russe. Vous avez souvent raconté la difficulté que vous aviez eue à mettre en scène en français, presque vos hésitations sur cette question. Là, vous mettez en scène en russe, qui est encore une autre langue que vous ne parlez pas a priori.
Encore plus grand que ça. Mais, comme vous dites, les chanteurs sont presque tous les Russes. Et aussi Vladimir Jurovski, le chef d'orchestre, est aussi de la Russie. Et moi, j'ai vraiment préparé très, très, très bien sur chaque mot. Mais la seule discussion qu'on avait pendant les répétitions, c'était les mots très petits comme « alors » ou « d'accord ». Et moi, j'ai compris « d'accord », alors je suis d'accord. Mais Jurovski a dit « non, en Russie, ça veut dire « ah, d'accord, je suis d'accord, mais moi, je m'en fous ». C'était des petites choses comme ça qui étaient le plus difficiles. Mais c'est vrai que ce que Chéreau dit, j'ai toujours, dans le théâtre, j'ai toujours refusé jusqu'à maintenant de faire du théâtre dans un langage que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Je ne parle pas bien le français, mais je comprends le français. français. Et aussi, en Allemagne, je peux faire ça en Angleterre. En anglais, l'allemand et bien sûr le néerlandais. Et, ce sont quatre langages dans lesquels je peux faire du théâtre. À l'opéra, c'est différent parce qu'il y a aussi un langage de la musique. Et la musique est si importante que le texte. C'est moitié-moitié. Je crois. Alors, mais ils peuvent, et on doit vraiment comprendre chaque mot et pas seulement le sens de la phrase. Il faut vraiment savoir ce qu'ils disent.
C'est un peu notre faute parce qu'au début, nous les Français, on vous a complexé avec votre français à force de vous reprendre. Mais là, c'est impossible que vous ne vous sentiez pas aimé. On l'évoquait, l'Opéra Bastille aujourd'hui, demain Chaillot avec les tragédies romaines. Il y a 2 ans à Avignon, les Damnés qui sont arrivés ensuite à la Comédie Française à Paris. Et puis ça va continuer l'année prochaine, encore beaucoup de rendez-vous ici avec vous en France. Vous allez finir peut-être par vous sentir chez vous dans cette langue que le français et à rêver en français.
Oui. Je me sens déjà chez moi. J'ai le travail avec l'Odéon, avec la Comédie Française. La Comédie Française, avec son ensemble des acteurs, je me sentais comme à la maison. Et aussi maintenant, à la Bastille, c'était vraiment aussi avec les problèmes avec le rideau de fer et tout. Hein, c'était un moment très compliqué, mais j'ai senti une vraie maison qui aime faire de l'opéra sur un niveau très haut artistiquement.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Midi, presque écart sur France Culture, le metteur en scène belge Ivo Van Hove est l'invité de cette grande table du lundi. Avant de le retrouver à Avignon cet été et à la Comédie Française la saison prochaine, il met actuellement en scène un Boris Goudanov, pouchkinien et shakespearien jusqu'au 12 juillet à l'Opéra Bastille, dirigé par le chef d'orchestre Vladimir Jurovski et avec la basse russe Ildar Abdrazakov dans le rôle titre. On l'écoute. Depuis toujours, vous aimez jouer avec les images. Et là, on a le sentiment que vous n'avez pas eu envie de jouer plus avec le folklore slave ou avec toute l'iconographie orthodoxe russe qui est pourtant très attirante. À part le grand escalier rouge, les décors et les costumes sont assez sombres. Vous êtes plutôt dans l'épure et dans une mise en scène qui joue avec une dialectique entre cette image publique du tsar, on évoquait le cœur, la foule, la masse, et puis sa vie intérieure, oui. Parce que ce chef, cet élu, dans ses solos aussi du chanteur montre une incroyable solitude. La solitude du pouvoir et la culpabilité, c'est la trame de l'histoire. C'est qu'on ne sait pas vraiment par quel moyen, compromission, il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il a ou pas tué l'enfant qui lui a permis d'accéder?
Oui, mais ça c'est la, j'ai déjà parlé du fait qu'il est un réformateur. Il est aussi, il oublie de communiquer ses nouveautés, mais ce qu'on découvre pendant l'opéra, qu'il est traumatisé par un meurtre qu'il a commis ou ordonné. Moi, je présente ça comme commis dans notre spectacle, ce qui est historiquement pas du tout vrai, hein, mais ok. Et ça c'est le cœur vraiment du spectacle. Et ça c'est aussi le moment shakespearien où il est vraiment blessé et il a essayé pendant toute sa vie d'oublier ça, d'ignorer ça. Mais ça devient de plus en plus une réalité pour lui. Et ça c'était bien sûr le drame de Boris Godunov, que cet réformateur, il a pensé qu'il peut réformer son pays basé sur un meurtre d'un enfant. Alors, c'est un acte criminel. Hein? On ne peut jamais être un réformateur vrai et pur quand on a commis un meurtre pour le bien du pays.
Et pourtant, son pouvoir, il l'exerce et il entend bien le transmettre de père en fils. Il reste rongé par cette culpabilité, mais il n'abandonne pas pour autant le principe éventuel d'une succession ou d'une hérédité. Je ne vais pas vous faire commenter tout l'opéra, il faut le voir pour comprendre et entendre ce qui s'y joue. Mais vous posez comme question, Ivo Vanoff, ce rapport entre le pouvoir et le théâtre. C'est quand même deux matières, deux domaines qui jouent un peu avec les mêmes ficelles parfois. L'un et l'autre mettent en scène l'idée de la vérité ou orchestrent le mensonge. La politique, pour vous, est assurément aussi un art du spectacle.
Bien sûr. Quand on est politicien, on doit communiquer. Alors, il faut toujours penser comment est-ce que je dis quelque chose. Ce n'est pas seulement le message. Le message est le plus important. On oublie ça parfois. Hein? Parce que tous les politiciens doivent être des visionnaires, pas seulement des technocrates. Hein? Les politiciens technocrates, c'est pour moi pas tellement intéressant. Ce sont des visionnaires qui sont intéressants. Mais dans notre temps, on ne voit pas ça très, pas beaucoup dans le monde, je crois. Et il y a plutôt, dans le temps que nous vivons maintenant, on veut oublier qu'il y a un futur et on veut vivre dans le passé un petit peu plus. Alors c'est aussi ça qui est dans l'opéra, hein, parce qu'il y a des hommes comme Chouisky, comme Pimène, qui sont vraiment il veut retourner dans le temps de Ivan le Terrible. Il dit ça aussi. Alors c'est presque comme Steve Bannon en Amérique pour moi, hein, qui veut un pays ultranationaliste, qui est une société d'exclusion et pas d'inclusion. Alors c'est Boris qui veut une société d'inclusion et il dit ça. Hein, et dans son premier speech, il dit « Je veux que tout le monde, riche et pauvre, sont au même niveau. Pour moi, ce sont des hommes et des femmes. » Il dit ça. Alors pour les boyards, c'est un choc. Ils ne peuvent pas accepter ça. Ils veulent une société comme dans Ivan le Terrible qui divise.
Et à contrario, on peut dire que le théâtre est aussi un art politique. Si la politique est un art du spectacle, c'est évident. C'est Visconti que vous aimez beaucoup, qui n'imaginait pas faire des films qui ne soient pas politiques, qui ne soient que simple divertissement. Oui. Vous l'avez mis en scène à la Comédie Française avec Les Damnés, un film qui avait fait scandale à sa sortie en 69 et qui montre aussi les compromissions d'une grande famille d'industriels de la bourgeoisie allemande avec la montée du nazisme. Une pièce aux trois Molières pour vous, Ivo Vanoff. Visconti que vous retrouverez avec son adaptation de Thomas Mann, Mort à Venise, pour le prestigieux Concertgebouw d'Amsterdam. Et Visconti, qui disait à propos de l'artiste qu'il doit tendre à la perfection vers la réalisation de la beauté.
Je crois que tous les moyens sont valables pour y arriver, tous les moyens sont valables pour atteindre cette beauté, cette perfection. Ceci est vrai pour un artiste, pour un écrivain, pour un musicien, pour un peintre. Et c'est tendre vers cette beauté, la réalisation de cette beauté. Alors, évidemment, ça, On peut accuser ça d'esthétisme, d'hédonisme, de décadentisme, tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que c'est plus sérieux de lui donner une définition plus grecque, au fond, dans un sens, et dire que c'est la réalisation d'une perfection, d'un équilibre complet et parfait, qui, en art, devrait être le but de chaque artiste.
En somme, la beauté, selon votre définition et dans votre œuvre, est le chemin par lequel on amène le public à la vérité. Aussi.
Absolument, c'est le véhicule le plus important et le plus atteignable, je veux dire, le plus compréhensible.
Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire que la beauté, c'est un but en soi. La beauté et la poésie peut être un moyen, je crois, de raconter des histoires. Mais je crois que, pour moi, tout à fait, c'est la vérité. Il faut montrer le monde dans toute sa brutalité. Ça, c'est ce que l'art doit faire. Quand on va voir la Guernica de Picasso, c'est une peinture qui est... Il n'y a pas de l'espoir. Et je suis toujours... et ça m'étonne toujours que des milliers, des milliers, des milliers de personnes chaque année vont voir cette peinture. C'est incroyable. Mais moi, je comprends pourquoi. Et ce n'est pas la beauté en soi, parce que cette peinture est beau aussi. Mais c'est beau, mais ça montre la cruauté extrême.
Guernica, avec une exposition actuellement encore, je crois, au musée Picasso, qui nous raconte l'histoire de cette œuvre, sans l'œuvre elle-même qui est restée accrochée en Espagne. C'est en tout cas avec cette même envie de rendre contemporaine aussi toutes ces problématiques d'hier que vous avez adapté les trois tragédies romaines, Corollian, Jules César, Antoine et Cléopâtre, reprises fin juin à Chaillot, 10 ans après leur première présentation en France. Toute cette thématique du pouvoir que vous nous montrez sur scène, Ivo Vanoff, de l'opéra au théâtre, est-ce qu'elle recoupe en permanence vos propres préoccupations d'artiste, certes, mais aussi de citoyen?
Oui, mais comme pour moi, tout a changé avec 9/11, quand ça s'est passé à New York. Pour moi, tout le monde a changé.
Avec le 11 septembre.
Et c'est ce moment était définitif, un point central dans ma vie, et aussi dans ma vie dans le théâtre et dans l'opéra. Et maintenant, je sens une obligation presque, de parler des choses qui sont très importantes dans notre société partout. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus fait des choses, fait des Shakespeare plus politiques, parce qu'avant j'ai fait aussi les tragédies de Shakespeare, mais c'était plutôt comme Roméo et Juliette, des choses comme ça. Mais maintenant, ça m'intéresse beaucoup, et je crois que Shakespeare est toujours l'écrivain qui peut nous dire beaucoup sur notre temps, parce qu'il aime aussi, Shakespeare aime la dialectique, et moi j'aime aussi la dialectique. Shakespeare n'est jamais un moraliste, il ne dit jamais ça c'est le bien et ça c'est le mal. Aussi, quand il montre Richard III sur scène, c'est le mal extrême, mais il y a aussi une faiblesse, parce qu'il se sent abandonné par sa mère. C'est une petite faiblesse. Et ça, alors il devient humain aussi sur scène.
Une dernière chose, Ivo Vanoff, on a vu que au fil de votre parcours, la musique a pris une place de plus en plus importante, jusqu'à la mise en scène du Lazarus de David Bowie à Broadway comme une échappée belle. Qu'est-ce qui guide vos choix musicaux, je veux dire, dans votre sensibilité de metteur en scène? Quelle est la musique qui aujourd'hui semble vous correspondre le plus en termes d'émotion, celle que vous aimez mettre en scène?
Pour moi, la musique... Aussi, dans mes spectacles de théâtre, il y a de la musique chaque seconde. Et pour moi, la musique et la dynamique de la musique, j'ai appris ça par faire de l'opéra. Et j'ai appris ça et j'ai...
Vous n'imagineriez plus aujourd'hui un spectacle sans musique?
Non, pour moi pas. Aussi, les choses qui se passent, c'est de la musique tout le temps. Seulement quand quelqu'un meurt, c'est silencieux pendant quelques secondes. Et alors, la musique continue de nouveau.
Alors, on se quitte en musique avec encore un extrait de Boris Godounov à voir en ce moment sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Merci beaucoup à vous, Yves.
Merci à vous.
Merci.
Merci. À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table, Donald Trump, symptôme d'une démondialisation annoncée, on en parlera avec nos invités à partir de 12h55.